Continuer et réussir, comment gagner du temps lorsque l'on travaille avec les autres. William Bernard a écrit: Rien n'est plus puissant qu'une idée de la nature humaine. Ses compulsions conduisent un homme, ses instincts dominent son action. Si vous savez ces choses sur une personne, vous pouvez le toucher au cœur de son être. Vos interactions avec les autres peuvent consommer autant de temps que n'importe quelle autre activité de votre journée, sinon plus. Même les travailleurs techniques passent jusqu'à 75% de leur temps à communiquer avec leurs collègues. Vous pouvez augmenter considérablement l'efficacité de vos interactions en améliorant la qualité de vos communications. La plupart des grands gaspilleurs de temps dans la vie sont les gens. Ces problèmes avec les gens peuvent être décomposés en plusieurs catégories critiques. Les malentendus fréquents. Le gaspillage de temps est souvent causé par des malentendus entre les interlocuteurs au sujet des rôles, des objectifs et des responsabilités. Les gens ne savent pas qu'ils sont censé faire, comment le faire et à quel moment le faire. Les malentendus conduisent à l'inefficacité, à la colère, à la frustration et à la tristesse. Il faut souvent une énorme quantité de temps pour dissiper un malentendu et ramener les choses à la normale. La plupart de vos problèmes dans la vie deviennent des malentendus. Ils viennent avec des cheveux sur le dessus. Peut-être 80% de votre bonheur ou votre malheur dans la vie implique d'autres personnes, peu importe comment ils se présentent. Les problèmes de communication avec d'autres personnes sont une source majeure de perte de temps. Les priorités plus peu claires. Au travail, les malentendus et les priorités conduisent souvent à une mauvaise tâche, au mauvais moment, pour les mauvaises raisons, et peut-être un but avec un niveau de qualité bas. Ou il se peut que vous travaillez pour la mauvaise personne. Certains des moments les plus stressants de votre vie sont causés par des malentendus au travail, en particulier avec des personnes, des problèmes de communication avec votre patron, par exemple. La cause la plus importante de sentiments positifs et des niveaux élevés de motivation dans le travail est définie comme le fait de savoir exactement ce qui nous attend. D'autre part, la première cause de motivation ou de plainte dans une société est de ne pas savoir ce qui est attendu de nous. Pour donner votre meilleur, vous avez besoin d'une clarté absolue au sujet de votre travail et de ce que vous êtes censé faire. Vous avez besoin de clarté en ce qui concerne les résultats requis et les normes de performance. Vous avez besoin de clarté en ce qui concerne les horaires et les échéances. Vous avez besoin de clarté en ce qui concerne les récompenses pour faire un bon travail et les conséquences du défaut de ne pas faire un bon travail. La clarté représente tout. Une mauvaise délégation. La mauvaise délégation à d'autres ou des autres conduit à la fois à des erreurs et de la frustration de la part du patron et de l'employé. C'est un gaspilleur de temps important. L'une des règles de la réussite dans la vie de travail est d'assumer les meilleures intentions du monde. Vous pouvez généralement supposer que chaque personne fait le meilleur qu'il peut avec son emploi dans la tâche qu'il pense être censé faire. Mais la mauvaise délégation conduit même les gens qui ont du talent à faire un mauvais travail ou des mauvaises tâches. Par conséquent, elles finissent par se sentir frustrées et malheureuses. Des lignes imprécises concernant l'autorité. Le manque de clarté sur l'autorité et la responsabilité conduisent à un gaspillage de temps. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont censés faire, quand ils doivent le faire et à quel niveau de qualité. Les gens se demandent qui est censé faire quoi par rapport à qui est responsable, qui est le patron. Un jeu de gestion. Dans mes séminaires de gestion, j'invite souvent des gestionnaires à jouer à un jeu avec moi. Le jeu s'appelle Gardez votre travail. Les règles sont assez simples. D'abord, les gestionnaires doivent écrire les noms des personnes sous leur ordre. À côté de ces noms, ils doivent écrire le travail le plus important que chacune de ces personnes devrait accomplir selon l'ordre de priorité et les raisons pour lesquelles elles sont sur la masse salariale. La prochaine étape, je demande aux gestionnaires impliqués d'interviewer chacun des membres de leur personnel. Chaque membre du personnel sera invité à répondre à la question: Pourquoi exactement avez-vous été embauché? Dans quel ordre de priorité? Si les réponses fournies par chaque membre du personnel sont identiques aux réponses données par les gestionnaires, alors les gestionnaires seront autorisés à conserver leur emploi. Je leur demande alors: Y a-t-il quelqu'un ici qui veut jouer à garder votre emploi? Personne ne veut jouer. Pendant les années où on faisait cet exercice, je n'ai jamais trouvé un seul gestionnaire qui était prêt à risquer la tâche, sa tâche, son emploi, sur la certitude que tous ses employés sont clairs sur la raison et les tâches qu'ils doivent accomplir en étant sur la masse salariale. Les gestionnaires responsables. Le fait est que chaque gestionnaire doit s'assurer que chaque employé sache exactement ce qu'il est censé faire. L'un des moyens les plus rapides pour accroître l'efficacité, dissiper les malentendus et améliorer la communication, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec chaque membre de votre personnel et de discuter de ce qu'ils sont censés faire et les normes d'excellence. Les informations incomplètes. Une autre grande perte de temps dans les affaires est la mauvaise information ou l'information incomplète, ce qui conduit souvent à des hypothèses et à des conclusions erronées. C'est incroyable de voir combien de fois les gens sautent à des conclusions ou font des fausses hypothèses sur la base d'informations erronées. Les meilleurs gestionnaires prennent le temps de poser des questions et d'écouter attentivement les réponses avant de prendre une décision. S'il y a un élément d'information qui suggère un problème ou une difficulté, ils doivent réexaminer cette information pour s'assurer qu'elle est exacte. Il faut toujours se demander quelle preuve avez-vous de ce que cette déclaration. Ne supposez jamais que quelque chose d'important est vrai sans prendre le temps de les corroborer. Les réunions sans but ou trop fréquentes. Trop de réunions ou des rencontres sans but qui procèdent sans ordre du jour ni direction ni fermeture constituent une énorme perte de temps au travail. Ce sont des réunions qui commencent et qui s'arrêtent sans résolution particulière. Aucun problème n'est résolu, aucune décision n'est prise et aucune responsabilité n'est attribuée. Il n'y a pas d'accord non plus sur les délais d'une action. Comme les 25 à 50% du temps de travail sont consacrés à des réunions de toutes sortes, vous pouvez augmenter considérablement votre efficacité et votre productivité en prenant votre temps pour améliorer la productivité de vos réunions, en préparant l'ordre du jour à l'avance et en apportant à chaque question une fermeture. Le manque de clarté concernant son emploi. Le manque d'information, de communication et le manque de clarté sur les questions importantes concernant le travail d'une personne provoquent beaucoup de pertes de temps. Dans une étude sur la motivation des employés, les meilleures entreprises ont été définies comme des lieux où chacun sentait qu'il était initié et au courant de ce qui se passait dans la société. Les pires endroits de travail ont été décrits comme ceux où personne n'était sûr de ce qui se passe réellement. Dans ce type de situation, les gens ne sont pas clairs au sujet de leurs responsabilités, pas sûrs de leur emploi et évitent de prendre des risques. Quand les gens ne savent pas ce qui se passe, cela conduit à la démotivation, à la mauvaise performance et à la clarté, carte de sécurité. Les gens ont besoin de savoir tout ce qui se passe dans la société et qui affecte leur emploi en particulier. Les meilleures entreprises sont ouvertes et honnêtes avec tous les employés concernant les questions relatives à la santé de l'entreprise. Les employés savent ce qui se passe et comment leur emploi s'inscrit dans la grande image. Lorsque les employés ne sont pas clairs ou ne savent pas, une énorme quantité de temps est perdue à la suite de conversations, de discussions et de ragots qui conduisent à des comportements de travail inefficaces et une faible productivité. Prenez le temps de communiquer clairement. Dans une étude, 84% des cadres à succès disent que leur capacité à communiquer efficacement avec les autres était la principale raison de leur succès. Aujourd'hui, presque tous les hommes et les femmes à succès dans le monde du travail, des affaires et de la politique et bien d'autres domaines sont dans leur position en raison de leur capacité à bien communiquer avec les autres. Une communication efficace est une compétence en gestion de temps vitale. Voici une règle. Ne supposez jamais que l'autre personne comprend ce que vous avez dit jusqu'à ce qu'elle vous le redise dans ses propres mots. Ne supposez jamais que vous comprenez quelque chose jusqu'à ce que vous l'ayez répété ou que vous ayez expliqué dans vos propres mots et que l'autre personne accepte. Cet intruisme de dire que nous comprenons quelque chose selon la mesure avec laquelle nous l'expliquons à une autre personne, l'acte même d'articuler une session, une décision avec les mots, les clarifie à la fois pour celui qui parle et évidemment l'autre personne qui écoute. En interagissant avec les autres, cherchez d'abord à comprendre puis à être compris. La plupart des gens laissent cette règle derrière eux. Ils sont tellement occupés à essayer de se faire comprendre par les autres qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre d'autres personnes d'abord. Écoutez attentivement l'autre personne pour être sûr que vous comprenez à la fois ses paroles et leur sens. Seulement alors vous devriez aider l'autre personne à vous comprendre. La clé de travail de communication efficace avec les autres est de développer une clarté absolue en ce qui doit être fait et pourquoi, quand et à quelle norme. La clarté nécessite du temps, de l'attention et de la patience. La loi de l'avantage comparatif. En 1805, l'économiste britannique David Ricardo a annoncé ce qui est devenu le principe le plus important de l'économie, la loi de l'avantage comparatif. Cette loi se réfère d'abord au commerce entre les pays. Il a démontré mathématiquement que les pays devraient spécialiser dans la production des produits qu'ils peuvent faire mieux comparé à n'importe quel autre pays. Ricardo a montré que même si le pays A produit deux produits à un niveau de qualité supérieur que le pays B, il est encore mieux pour le pays A de se concentrer exclusivement sur la production de l'un des produits qui fait le mieux et de laisser le pays B produire exclusivement l'autre. La valeur totale créée par les deux pays pour leurs citoyens serait plus en rapport avec les ressources utilisées dans la production que si chaque pays essaie de produire les deux produits. L'application de l'avantage comparatif à votre travail. Dans les affaires, le commerce, c'est un principe extrêmement important. Il est à la base des écarts de salaire modernes. Dans votre vie professionnelle, la loi de l'avantage comparatif dit que vous devrez céder, déléguer, sous-traiter ou laisser quelqu'un d'autre faire n'importe quel travail qui peut être fait à un salaire inférieur à ce que vous gagnez ou au salaire que vous désirez gagner. En termes simples, si votre but est de gagner 50 000 $ par an et vous travaillez 2000 heures par an, votre taux horaire est d'environ 25 $ de l'heure. Cela signifie que vous devez embaucher quelqu'un pour faire une tâche qui peut être faite à un taux horaire inférieur à 25 $, même si vous pouvez mieux faire le travail que cette personne. Cela vous permet de passer plus de temps à faire plus de travail, payer 25 $ de l'heure ou plus. Si vous pouvez gagner 100 000 $ par an, votre taux horaire est de 50 $ de l'heure pour chaque heure que vous travaillez. Mais vous ne pouvez pas gagner 50 $ de l'heure au cours d'une journée si vous allez laver votre voiture, faites vos courses, déposez votre linge au pressing. Vous ne pouvez pas gagner 25 $ ou 50 $ par heure si vous bavardez avec vos collègues, faites du café, lisez le journal ou surfez sur l'Internet. Ce type de travail ou d'activité ne vous paie pas ce genre de taux horaire. La règle de base est la suivante. Si vous voulez gagner 100 000 $ par an, vous devez faire 50 $ par heure de travail pendant 8 heures chaque jour de travail. Le principe clé de la productivité du personnel. C'est le principe clé de la productivité du personnel. Si vous ne vous concentrez pas avec détermination sur le travail au-dessus de votre taux horaire souhaité, vous ne gagnerez pas cette somme d'argent dans le long terme. Cette règle s'applique à l'embauche, que ce soit à quelqu'un qui doit faire la comptabilité, la dactylographie, les achats, le nettoyage de la maison ou de toute autre tâche. La clé est une délégation efficace. Vous confiez ou déléguez ces choses rémunérées à un taux horaire inférieur à ce que vous gagnez. C'est la seule façon d'avoir assez de temps pour se concentrer sur le genre de travail qui va vous rapporter l'argent que vous désirez vraiment. Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont mises à pied à partir de différents postes dans différentes industries. Dans presque tous les cas, c'est parce que leur contribution horaire au sein de leur société a chuté en dessous de la somme d'argent qu'ils reçoivent en salaire ou en reconnaissance. Cette situation peut avoir été causée par des circonstances extérieures ou par des changements sur le marché qui font perdre de la valeur aux produits et services qu'elles produisent. Vous ne pouvez être payé que parce que vous pouvez contribuer. Cependant, dans de nombreux cas, la valeur des travailleurs a chuté parce qu'ils n'ont pas toujours mis à jour leurs compétences. D'autre part, ils perdent trop de temps. Ils se livrent à des activités ou des tâches ayant peu ou pas de valeur. Les tâches dont personne ne peut payer 25 ou 50 $ de l'heure. En conséquence, les travailleurs sont mis à pied ou licenciés et ils doivent faire le tour pendant plusieurs mois avant de trouver de nouveaux emplois qui paient des montants encore plus bas qu'ils gagnaient avant. L'accent mis sur votre taux horaire et la croissance incessante de la valeur de votre travail sur une base horaire est la clé de votre avenir. L'entraîneur de basketball Pat Riley a dit « Si vous n'êtes pas de mieux en mieux, vous êtes de pire en pire. Mais si vous n'apprenez pas et n'améliorez pas constamment vos compétences, vous êtes en train de glisser vers l'arrière et votre temps a de moins en moins de valeur pour votre employeur. Ne laissez pas ça vous arriver. » La délégation est la clé de l'effet de levier. Pour réaliser ce que vous êtes capable de réaliser et être en mesure de vous concentrer sur les quelques tâches qui sont la plus grande contribution que vous apportez à la vie dans le travail, vous devez devenir excellent à la délégation. Que vous soyez un patron ou un employé, vous devez sans cesse être à la recherche de moyens d'externaliser, de déléguer et d'amener les autres personnes à faire les choses payées à un taux horaire plus bas que vous ne désirez obtenir. Il y a plusieurs façons pour devenir plus efficace à déléguer, à la sous-traitance ou à engager d'autres personnes à faire partie de votre travail afin que vous puissiez vous concentrer sur les parties de votre travail qui sont payées plus. Qui d'autre peut faire ce travail? Posez-vous la question. Qui peut faire ce travail à votre place? N'oubliez pas que vous devez déléguer tout votre possible afin d'avoir assez de temps pour faire les choses les plus importantes. Qui peut faire le travail mieux que vous? L'une des caractères d'un gestionnaire parmi les plus efficaces et les meilleurs leaders, c'est qu'ils ont la capacité de trouver des gens qui sont supérieurs à eux dans des tâches spécifiques. Vous devez continuellement chercher des gens qui peuvent faire certaines parties de votre travail mieux que vous. Le travail peut être fait à moindre coût. Évaluez le travail et demandez qui peut faire ce travail à un coût moins élevé que moi. Beaucoup d'entreprises et d'individus se rendent compte qu'ils peuvent externaliser des parties importantes de leur activité à des entreprises qui spécialisent dans ce domaine. Les entreprises qui spécialisent dans une fonction particulière peuvent généralement faire le travail pour moins cher et plus rapidement qu'une entreprise qui fait ce travail comme une partie de ses autres activités. Le travail peut-il être complètement éliminé? Demandez-vous à vous-même et aux autres, cette activité peut-elle être éliminée en fin de compte? Que se passerait-il si ce travail n'était pas fait du tout? Beaucoup de tâches de routine et des activités dans une entreprise peuvent être facilement éliminées sans perdre de productivité avec de fortes augmentations d'efficacité. Un jour, dans Fortune 500, un nouveau président des finances a repris la comptabilité et la comptabilité de l'organisation nationale. L'un de ces départements était composé de 12 experts comptables et des analystes hautement rémunérés qui passaient leur temps à assembler les rapports mensuels de toutes les divisions d'exploitation en un seul rapport qui était ensuite distribué à tous les chefs de division. Ce service et ses activités coûtaient près de 1 million de dollars par année à l'entreprise. Le nouveau vice-président était curieux. Il est allé dans les couloirs voir l'un des chefs de division et lui a demandé s'il a reçu les rapports mensuels de son service de comptabilité. Le chef de division lui a assuré qu'il recevait les rapports chaque mois. Le vice-président alors a demandé « Que faites-vous avec ces rapports ?» Le chef de division a dit « Venez ici, je vais vous montrer. » Il a emmené le vice-président dans le couloir et dans une salle de stockage où chacun des rapports était soigneusement empilé sur un ensemble de bibliothèques avec environ 3 pouces d'épaisseur. Nous n'avons jamais le temps de les lire, mais nous continuons à les mettre ici juste au cas où. Le vice-président des finances est retourné à son bureau, a appelé les spécialistes rédigeant le rapport et leur a dit de cesser leur activité. Ils seraient réaffectés à d'autres emplois où la société en avait besoin davantage. Il a mis fin ainsi au rapport et n'en a parlé à personne. Rien ne s'est passé. 9 mois plus tard, le vice-président était à une réunion de l'exécutif et l'un des chefs de division a demandé en passant « Qu'est-ce qui est arrivé à ces tonnes de rapports que nous recevions régulièrement par votre service chaque mois ?» Le vice-président des finances a déclaré « Nous avons cessé de les envoyer. » Et le chef de division a répondu « Eh bien, nous ne les lisions jamais de toute manière. » C'est le seul commentaire qu'il n'a jamais reçu de quiconque dans la société sur les rapports abandonnés. C'est incroyable de voir comment certaines activités dans les affaires et dans la vie privée pourraient être facilement interrompues et complètement sans causer de perte ni de désagrément à personne. Exclure ces activités pour une efficacité accrue peut considérablement améliorer la productivité et la rentabilité d'une organisation ou d'un département. 6 étapes pour une délégation efficace. Pour déléguer efficacement votre travail aux autres, il y a 6 étapes que vous pouvez prendre. Si vous négligez ne serait-ce que l'une de ces étapes, vous risquez des problèmes de communication, de malentendus, de démoralisation et de mauvaise performance. Correspondre la personne à l'emploi. L'une des grandes pertes de temps dans le monde du travail est de déléguer la tâche à la mauvaise personne. Souvent, la tâche est déléguée à une personne qui n'est pas capable de la faire correctement ou de la faire dans les délais. Le meilleur indicateur de la performance future est la performance passée. La règle est que vous ne devez jamais déléguer une tâche importante à une personne qui n'a pas effectué cette tâche-là de manière satisfaisante dans le passé. C'est injuste pour une personne qui n'a jamais fait ce travail avant de fournir un niveau de qualité suffisant quand il le fait pour la première fois. S'accorder sur ce qui doit être fait. Une fois que vous avez choisi la bonne personne pour le poste, prenez le temps de discuter du travail avec cette personne et de vous entendre sur ce qui doit être fait. Si vous prenez plus de temps pour discuter et vous entendre sur le résultat final ou l'objectif, vous ferez plus d'efforts pour obtenir une clarté absolue et le travail sera plus rapidement fait une fois que la personne commence. Expliquez comment le travail doit être accompli. Expliquez à la personne votre approche ou méthode de travail préférée. Expliquez comment vous souhaitez que le travail soit fait et comment vous ou quelqu'un d'autre l'a fait avec succès dans le passé. Demandez une rétroaction de l'employé sur ce que vous venez de dire. Demandez à une personne de vous redire vos instructions dans ses propres mots. Demandez sa propre explication sur ce que vous venez d'expliquer est convenu. C'est la seule façon de vous assurer que l'autre personne comprenne vraiment le travail ou l'affectation qui lui a été déléguée et qu'elle l'accomplisse. Fixez une date limite. Fixez une date limite et un calendrier pour l'achèvement de la tâche. En même temps, organisez des rapports réguliers et des inspections périodiques. Invitez des commentaires et des questions s'il y a des retards ou des problèmes. Gérer par exception. La gestion par exception est un outil de gestion du temps puissant que vous pouvez utiliser pour travailler plus efficacement avec d'autres personnes. Si le travail est sur la bonne voie et conforme au calendrier, la gestion par exception signifie que la personne n'a plus à se présenter de nouveau devant vous. Si vous n'entendez pas parler de cette personne, vous pouvez supposer que tout ira bien. L'individu ne doit plus vous faire rapport que quand une exception se produit ou qu'il a un problème avec l'exécution du travail concernant l'heure ou l'accord sur le niveau de qualité. Cette façon de faire plus chaque jour. Il existe 7 méthodes que vous pouvez utiliser pour en faire plus chaque jour. Chaque suggestion est simple, directe et ne coûte pas d'argent. Travaillez plus dur. Travaillez plus dur que ce que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez vous concentrer avec plus d'intensité sur votre travail. Vous pouvez vous concentrer avec détermination et disciplinez-vous à travailler sans interruption, ni détournement, ni distraction. Vous pouvez travailler plus fort que n'importe qui d'autre, ce qui est un secret à un grand succès. Travaillez plus vite. Vous pouvez travailler plus vite que ce que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez accélérer le rythme, vous pouvez développer un tempo plus rapide, vous pouvez vous déplacer plus rapidement d'un endroit à l'autre et d'une tâche à une autre. Lorsque vous combinez travailler plus dur et travailler plus rapidement, vous pouvez en faire plus en une seule journée que la plupart des gens en font en une semaine. Regroupez vos tâches, vous pouvez faire un lot de vos tâches, vous pouvez faire une série de travaux semblables ensemble, profitant de la courbe d'apprentissage. Faites des choses plus importantes. Vous pouvez faire des choses plus importantes, vous pouvez travailler sur des tâches à plus forte valeur, vous pouvez travailler sur des tâches qui ont un gain potentiel plus élevé plutôt que des tâches qui ont un gain plus faible. Faites des choses où vous êtes le meilleur, faites des choses à laquelle vous excellez. Si vous êtes meilleur dans une zone de compétences clé, alors vous pouvez faire encore plus à un niveau de qualité supérieur parce que vous êtes mieux à ces tâches. Elles seront plus faciles pour vous, alors vous les ferez avec moins d'efforts et vous aurez plus d'énergie par la suite. Faites moins d'erreurs. Pour en faire plus, vous pouvez faire moins d'erreurs. Vous pouvez prendre le temps de bien faire les choses la première fois. Vous avez déjà entendu dire « Il n'y a jamais assez de temps pour bien faire les choses, mais il y a toujours assez de temps pour faire plus. » L'une des meilleures techniques de gestion de temps est de bien le faire la première fois, même si cela prend un peu plus d'effort et de concentration. Simplifier le travail. Vous pouvez simplifier le travail en réduisant le nombre d'étapes nécessaires pour compléter la tâche. Cela rend le travail plus simple et plus facile à faire. Prêtez attention. La vie est l'étude de l'attention. Vous devez toujours faire attention à ce qui a le plus de valeur pour vous. Si vous tenez à une autre personne, vous l'écoutez intensivement quand elle parle. Si vous appréciez le résultat d'un travail, vous prêtez attention aux détails qui déterminent si oui ou non ce travail est terminé avec succès. Les gestionnaires efficaces valorisent les résultats de leur département et de leurs employés et accordent une attention particulière à tout ce qui se passe autour d'eux. Assurez la réussite au travail. Les meilleurs moments que vous n'aurez jamais dans un poste ou une entreprise sont quand vous vous entendez à merveille avec votre patron. D'autre part, les pires moments que vous n'aurez jamais dans n'importe quel travail sont quand vous ne vous entendez pas bien avec votre patron. Et la principale raison pour laquelle les employés ont des problèmes avec leur patron est le manque de clarté sur les tâches, le niveau de l'ordre et de priorité, c'est qu'il y a exactement à faire. Voici un excellent exercice pour vous. Faites une liste de toutes les réponses à la question « Pourquoi suis-je sur la masse salariale ?» Notez tout ce pourquoi vous croyez avoir été embauché à accomplir dans votre travail. Mettez l'accent sur les résultats plutôt que sur les activités. Imaginez que votre travail consiste en une série de choses livrables. Définissez votre travail en termes de produits livrables pour lesquels votre société vous verse un salaire. Maintenant, présentez cette liste à votre patron et demandez-lui d'organiser cette liste par ordre de priorité en fonction de ce qui est plus important pour lui. Cela peut prendre quelques minutes, soyez patient. Pendant que vous discutez de cette liste avec votre patron, posez des questions afin que vous soyez parfaitement au clair sur ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous sur les grandes priorités de votre patron. À partir de ce jour, concentrez-vous et faire des tâches que votre patron considère comme les plus importantes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Chaque fois que votre patron vous demande de faire quelque chose d'autre, sortez votre liste et demandez-lui à quel ordre de priorité se situe la nouvelle tâche par rapport aux tâches actuellement sur votre liste. Si vous travaillez à votre pleine capacité, vous devrez arrêter de faire quelque chose de vieux pour faire quelque chose de nouveau. Beaucoup de patrons ne réalisent pas que votre assiette est déjà pleine. Quand votre patron vous demande de faire quelque chose de nouveau, vous devrez lui demander ce qu'il voudrait que vous arrêtiez de faire de sorte que vous puissiez travailler sur la nouvelle tâche qu'il vient de vous donner. C'est une merveilleuse façon de minimiser les malentendus et d'améliorer les communications. Ce n'est que lorsque vous travaillez sur les tâches qui sont les plus importantes aux yeux de votre patron que vous pouvez éventuellement avoir une chance de le satisfaire ou de lui plaire ou d'être payé plus ou être promis plus souvent. Si vous faites l'erreur de faire des choses sur votre liste d'une excellente manière mais vous travaillez sur des tâches qui ne sont pas importantes pour votre patron, vous allez effectivement saboter votre carrière. Si vous consacrez plus de temps à un excellent travail sur les tâches sans importance, vous retomberez encore plus loin derrière. Trois types de décisions. Il existe trois types de décisions dans une organisation ou une famille. Lorsque les décisions concernent d'autres personnes, il est important que tout le monde soit clair sur le type de décision qui va être utilisée. Les décisions de commande. Les décisions doivent être prises par le patron ou la personne en charge. Ces décisions sont si importantes qu'une seule personne est l'unique responsable de son esprit sur ce qui est à faire. L'embauche d'un membre du personnel clé, le renvoi d'une personne non performante, la prise de décision sur l'investissement important, la finalisation d'une vente ou une transaction, ou même la négociation d'un nouveau prêt avec la banque, sont toutes des décisions de commande. Elles doivent être effectuées par la personne en charge. Les décisions consultatives, c'est une décision où vous ou votre patron demandez des conseils à la participation d'autres personnes. Vous combinez les opinions, les idées, les suggestions des autres avec les vôtres et prenez une décision. Même si elle requiert le conseil de la participation des autres, une décision de consultation ne se fait pas sur la base de cet avis. Vous pensez peut-être embaucher une nouvelle personne, assigner quelqu'un pour une tâche particulière, passer une certaine somme d'argent sur une activité commerciale ou vous lancer dans une nouvelle campagne de vente ou de marketing. Si vous êtes le patron, vous pouvez demander conseil à tout le monde avant de finalement fermer la porte et prendre votre décision finale. Lorsque le général Dwight Eisenhower était le commandant suprême des forces alliées en Grande-Bretagne, il a considéré les conseils et les contributions de centaines d'experts militaires, de planificateurs et spécialistes dans sa préparation pour l'invasion du jour J. Ce processus a pris plusieurs mois, mais à la fin, avec un seul jour de temps calme prévu pour la Manche, le général Eisenhower a pris la décision fatidique qui a lancé l'invasion du 6 juin 1944 et la Seconde Guerre mondiale a pris fin 10 mois plus tard. Les décisions consensuelles, celles-ci se font sur la base du consensus. Il s'agit d'une décision démocratique où tout le monde participe, discute des avantages et des inconvénients et se met alors d'accord sur ce qui doit être fait. Parfois, tout le monde est d'accord et parfois, la décision est prise par un vote démocratique où les règles de la majorité sont appliquées. Une fois que la décision a été prise, tout le monde s'engage à prendre la décision, la même décision, même s'ils ont voté d'une autre manière lors de la prise de la décision. Précisez toujours le type de décision. Un des problèmes dans les communications et le travail d'équipe est la confusion sur le type de décision à prendre sur le moment. Parfois, le patron demande des idées des autres, Les membres du personnel concluent automatiquement qu'il s'agit d'une décision par consensus, tandis que le patron peut la considérer comme une décision consultative. Quand le patron prend une décision qui est contraire aux volontés exprimées ou aux opinions des autres, il peut conduire à des sentiments durs et des malentendus. Le temps sera gaspillé à revenir à expliquer aux gens que leur opinion a été invitée et bienvenue, mais pas nécessairement suivie dans la décision finale. Quand un patron clarifie qu'il s'agit d'une décision démocratique ou de consensus, alors le personnel peut décider de ce qui doit être fait dans ce cas précis et que tout le groupe décide, tout le monde va le suivre. Quand tout le monde est clair sur le type de décision à examiner, tout se passe en douceur, avec moins de friction et de perte de temps. Concentrez-vous sur la solution. Souvent, dans mes séminaires, je dis « je connais la description du poste de chaque personne dans cet auditoire ». Cela attire immédiatement l'attention de tout le monde. Les gens sourient et puis attendent pour savoir ce que je vais dire. Vous voulez prendre votre carte de visite et rayer, peu importe le titre que vous avez dessus, et remplacez-le par les mots « je suis un résolveur de problèmes ». Tout le monde ici est un résolveur de problèmes. C'est ce que vous faites toute la journée. L'une des qualités des gens les plus qualifiés, c'est qu'ils sont intensément orientés vers les solutions. Ils ne réfléchissent pas et ne parlent pas du problème, de qui est à blâmer, de ce qui a été perdu et du pourquoi c'est arrivé. Au lieu de ça, ils se concentrent sur la solution et ce qui peut être fait pour résoudre le problème. Votre travail dans n'importe quelle position est de résoudre les problèmes. Votre revenu, votre taux de promotion, le respect, l'estime de vos pairs et tout votre succès dans la vie sont déterminés par votre efficacité à résoudre les problèmes et les difficultés devant vous à chaque heure du jour dans la réalisation de votre objectif. Le leadership est la capacité à résoudre des problèmes. Le succès est la capacité à résoudre des problèmes. L'efficacité personnelle est la capacité à résoudre des problèmes inévitables et incontournables de la vie quotidienne. La seule question est à quel point êtes-vous bon à la résolution de problèmes. Voici une nouvelle découverte. Si vous pensez parler plus des solutions possibles, vous devenez plus intelligent. Lorsque vous pensez parler de ce qui peut être fait pour résoudre le problème, vous aurez plus d'idées, vous allez devenir plus créatif, votre esprit fonctionne plus vite. Si vous réfléchissez plus aux solutions, beaucoup plus de solutions vont se présenter à vous. Finalement, vous deviendrez comme le Pac-Man du jeu vidéo, engloutissant les problèmes aussi vite que vous les rencontrez. L'un des plus grands économiseurs de temps dans la vie et dans le travail est votre capacité à résoudre le bon problème à la bonne manière. C'est votre capacité à traiter efficacement avec les problèmes, les surmonter et à continuer à avancer vers le résultat ou l'objectif que vous désirez. D'autre part, l'une des plus grandes pertes de temps dans la vie et le travail est l'incapacité à résoudre les problèmes. L'incapacité à résoudre un seul problème clé peut conduire à l'échec scolaire, la frustration et même la faillite d'une organisation. Penser et parler en termes de résolution de problèmes et de solutions est l'une des mentalités les plus importantes que vous pouvez développer. Sept étapes à compter sur la résolution de problèmes. Il y a sept étapes à suivre pour une résolution efficace de problèmes. Si vous les suivez pour le reste de votre carrière, vous serez en mesure de passer à travers toutes les difficultés ou obstacles. Premièrement, définissez bien le problème. Commencez par demander quel est exactement le problème. Définissez clairement le problème et si possible par écrit. Rappelez-vous un diagnostic précis à la moitié de la guérison. Parfois, l'écriture d'un problème est sur un grand tableau ou un tableau blanc et avoir l'accord de tout le monde sur la définition du problème conduit rapidement à une solution. Très souvent, vous forcez à définir clairement le problème par écrit sur un morceau de papier va déclencher une solution logique. Au moins 50% des problèmes peuvent être résolus dans la phase de définition. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes ? Une fois que vous avez défini clairement le problème, vous devrez vous demander quel est le reste du problème. Ne vous contentez jamais d'une seule définition d'un problème. Continuez à réfléchir. Voyez si vous ne pouvez pas développer de multiples définitions pour un seul problème. Parfois, un grand problème est en fait un groupe de petits problèmes où le plus grand problème est en fait composé de plusieurs petits problèmes. En définissant clairement le problème, vous le décomposez en ses parties constituantes afin de pouvoir résoudre chacune de ses parties à la fois. La règle est que dans chaque problème complexe, il y a généralement un seul problème qui doit être résolu avant de pouvoir passer à la résolution des autres problèmes. Ce seul grand problème qui doit être résolu n'est pas souvent clair ou évident. Il faut que vous creusiez un peu pour le trouver. C'est la nature humaine de sauter aux conclusions. Nous voyons un problème et nous sautons à une conclusion. Nous sautons à une solution. Sans tenir compte du fait que nous sautons peut-être de la poêle pour aller droit dans le feu. Dans la définition du problème ou des problèmes, il est important d'aller lentement au début pour vous assurer que vous ne travaillez pas sur le mauvais problème. Résoudre le mauvais problème de la bonne manière crée souvent une situation pire que celle avec laquelle vous avez commencé. Identifiez toutes les causes possibles. Avant de chercher une solution, demandez-vous comment ce problème s'est produit, quelles sont toutes les causes possibles de ce problème, quelles sont les raisons du problème. Il ne suffit pas simplement de trouver une solution, il est important de traiter en premier lieu les causes sous-jacentes qui ont créé le problème. Quand j'ai lancé mon entreprise il y a quelques années, nous semblions toujours avoir des problèmes de flux de trésorerie. Peu importait à quel point nous étions occupés dans le marché, tous les 2 mois, le compte bancaire se vidait et nous nous démenions pour trouver les fonds pour ouvrir, couvrir la plaie des dépenses et toutes les autres factures. Tous les 2 mois, le compte bancaire se vidait encore et on n'arrivait pas à trouver les fonds. Nous avons finalement réalisé que nous manquions d'un système de gestion de trésorerie. J'ai appris plus tard que c'est l'un des outils les plus importants pour la survie et le succès d'une entreprise ou, bien sûr, personnelle. Il s'agit d'une projection mensuelle à long terme de vos besoins de trésorerie en fonction de vos meilleures estimations concernant vos revenus et vos dépenses. Une fois que nous avons pris le temps de nous projeter un an en avant, sur la base des fluctuations saisonnières de nos revenus, nous avons été en mesure de prédire avec une certaine précision combien entrait, combien allait sortir et à quel moment de l'année nous pourrions avoir des déficits de trésorerie. Une fois que le plan de trésorerie est mis en place, nous avons organisé des lignes de crédit et des réserves financières pour faire en sorte que la crise de liquidité ne se reproduise pas. Très souvent, l'identification de la cause d'un problème suggère immédiatement une solution évidente qui vous permet de résoudre le problème et éviter qu'il se reproduise. Identifiez toutes les solutions possibles. Avant de sauter à une conclusion, demandez-vous quelles sont toutes les solutions possibles, quelles sont toutes les différentes choses que vous pouvez faire pour résoudre le problème particulier, s'il s'agit d'une étape très importante dans le processus. Plutôt que de supposer qu'il y a une seule réponse, notez qu'il y a de nombreuses solutions différentes au problème, plus que vous ne pouvez penser. S'il y a plus de solutions, alors c'est mieux. Méfiez-vous d'un problème pour lequel il n'existe qu'une seule solution. Dans de nombreux cas, la solution la plus évidente n'est pas la meilleure solution. Dans certains cas, la bonne solution est de faire le contraire de votre inclinaison initiale. Parfois, c'est de faire quelque chose de radicalement différent. Parfois, la solution est de rien faire du tout. Dans l'élaboration des différentes solutions à un problème, vous devrez définir clairement les limites de vos conditions. Ce sont les contraintes auxquelles vous avez à travailler et les résultats que cette solution doit atteindre. Souvent, vous pouvez développer de meilleures solutions en définissant les conditions minimales et maximales de chaque solution avant de commencer. Qu'est-ce que cette solution réussira à accomplir? Si la solution est parfaite, ce résultat sera-t-il atteint? Comment pourrons-nous savoir que c'est une bonne solution? Commencez par la fin à l'esprit. Soyez clair qu'est-ce que vous voulez accomplir avec la décision avant d'opter pour la solution. Ensuite, prenez une décision. Une fois que vous avez toutes les informations, prenez une décision. Choisissez la solution qui vous semble être la meilleure des solutions disponibles. Mais avant d'en être sûr, demandez-vous pourquoi est-ce que c'est la meilleure solution? Pourquoi cette solution est supérieure aux autres? Le temps que vous prenez pour réfléchir et étudier le problème et la solution à la fois rendra votre réponse meilleure et plus précise. Quelques minutes passées dans une analyse approfondie des problèmes et des solutions peuvent vous faire économiser une quantité énorme de temps lors de la mise en œuvre. Établissez une solution de rechange. N'oubliez pas de vous demander quelle est notre solution de rechange. En d'autres termes, une fois que vous avez trouvé la meilleure solution, soyez ouvert à la possibilité que cela ne fonctionne pas du tout. Si tel est le cas, quel est votre plan B? Quelle serait votre position de rechange? Quelle serait votre solution alternative si votre première solution échouait? Le processus de réflexion sur une solution alternative est un exercice mental très puissant. Il vous oblige à élargir votre vision du problème et toutes vos responsabilités. Très souvent, en y réfléchissant bien et en développant une position de repli, vous allez réellement améliorer la solution initiale. Parfois, vous allez complètement la changer. Rappelez-vous, vous êtes toujours aussi libre que vous avez des options et des options bien développées. Si les solutions de rechange que vous avez développées avant d'agir sont nombreuses, vous serez plus efficace lorsqu'enfin vous agissez. Continuez à vous demander, que vais-je faire si cela ne fonctionne pas? Quelle sera mon alternative si cette solution s'avérait fausse? Comment pourrais-je répondre si cette ligne de conduite échouait? Déterminez le pire résultat possible. Avant d'implanter la solution, demandez-vous quel est le pire résultat possible de cette ligne de conduite? Quelle est la pire chose qui peut arriver si vous agissez avec cette solution? Très souvent, la deuxième solution que vous avez développée s'avère être meilleure que la première, tout simplement parce que les conséquences possibles de la pire deuxième solution ne sont pas aussi graves que les conséquences possibles de la première solution. Dans tous les processus de prise de décision, il y a un certain élément de risque. Il existe toujours une incertitude quant à l'issue. Il y a des risques que vous pouvez vous permettre de prendre, il y a des risques que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre. Par exemple, une campagne de publicité à grande échelle peut être très coûteuse. Beaucoup d'entreprises ont fait l'erreur de miser une grosse somme et de jeter tout leur argent dans la publicité. Leur pensée est que si un petit pourcentage des téléspectateurs étaient susceptibles d'acheter le produit, leur achat couvrerait tout l'argent dépensé à la publicité. Cependant, parfois, ils n'ont pas considéré le pire résultat possible. que personne ne répondra à la publicité du tout. Et si c'est le cas, eh bien ça leur coûterait beaucoup plus. Certains nombres de compagnies ont ainsi fait faillite. Il y a des risques que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre. Attribuer la responsabilité spécifique. Une fois que la décision a été prise, soit vous cédez, soit vous acceptez la responsabilité de l'exécution de la décision. Fixez un échéancier, une date butoir. Faites bien comprendre avec clarté à tout le monde que ce qui doit être fait, par qui et avec quel échéancier. Beaucoup d'entreprises font l'erreur de résoudre le problème, trouver une excellente solution, bien attribuer les responsabilités, puis de quitter la table. 2 semaines ou 4 semaines plus tard, ils se réunissent de nouveau et rien n'a été fait. Pourquoi ? Aucune échéance n'a été fixée. L'individu à qui la responsabilité a été confiée était dérouté, occupé par d'autres projets. Aucune action n'a été entreprise. Parfois, cette inaction peut être désastreuse. Une fois que vous avez pris une décision, attribuez la responsabilité, fixez un délai, puis continuez dans ce sens. C'est la partie essentielle de la résolution de problèmes. Concentrez-vous sur la contribution. L'une des principales techniques de gestion de temps lorsqu'on travaille avec les autres est appelée « focus sur la contribution ». Concentration sur la contribution d'une organisation est essentielle pour une bonne communication et un travail excellent en équipe. De bonnes relations humaines se produisent dans les entreprises quand les collaborateurs sont concentrés sur la tâche et visent à atteindre des objectifs spécifiques ou à résoudre des problèmes spécifiques. Si vos relations dans le monde du travail ne sont pas concentrées sur les tâches, elles ont tendance à devenir des personnes. Au lieu d'être objectives et mesurées, elles deviennent subjectives et personnelles. En conséquence, les gens se parlent avec et sur les autres la plupart du temps. Cela conduit à d'énormes pertes de temps et à une diminution d'efficacité. Pratiquez la gestion participative. La gestion participative est un grand gain de temps lorsqu'on travaille avec les gens. Il est l'un des meilleurs outils d'un gestionnaire peut développer. La gestion participative exige que vous réunissiez votre équipe au moins une fois par semaine pour une assemblée générale du personnel. Lors de cette réunion, les membres du personnel parlent de ce qu'ils font, des progrès qu'ils font et des problèmes qu'ils ont. Les gens posent des questions aux autres, des décisions sont prises et les solutions sont adoptées. La découverte intéressante de la gestion participative, c'est que quand quelqu'un s'engage à faire quelque chose dans un certain délai devant ses pairs, il sera intérieurement motivé pour compléter cette tâche. Et pas seulement lorsque vous rassemblez les gens sur une base régulière, vous pouvez résoudre des problèmes, prendre des décisions et dissiper les malentendus plus rapidement qu'avec n'importe quel moyen. La gestion participative est un outil incroyable que vous pouvez utiliser en tant que gestionnaire ou superviseur pour l'ensemble de votre carrière. Évitez la délégation inverse. L'un des gains de temps les plus importants dans le monde du travail est lié avec ce qui est appelé la délégation inverse. C'est là que les membres de votre personnel à qui vous avez délégué la tâche vous la redélèguent. Le travail remonte maintenant la chaîne de commandement plutôt que la descendre. Le travail vient de la subordination au patron plutôt que du patron à la subordination. Vous devez consciemment résister à la délégation inverse et être conscient que les employés sont toujours en train de vous déléguer le travail. Ils utilisent une série de techniques dont vous pouvez devenir victime si vous ne faites pas attention. L'une des façons utilisées par l'employé pour vous déléguer une nouvelle tâche que vous lui avez déléguée est de vous apporter un problème et de vous demander de le régler. L'employé demande « Pouvez-vous prendre soin de cette tâche pour moi ou m'obtenir cette information ?» Puisque vous êtes le patron, donc plus compétent et plus expérimenté que lui, vous vous engagez à prendre soin de lui et le faire revenir aussi rapidement que possible. Mais d'autres tâches arrivent et ce travail va sur votre pile et sera enterré parmi vos autres responsabilités. Voilà la règle. La personne qui a la responsabilité de la prochaine étape dans le travail devient la seule responsable. Lorsque les membres de votre personnel vous demandent de faire quelque chose, déterminant ainsi la façon dont ils font le travail, ils vont vous déléguer leurs tâches. Bientôt, les membres de votre personnel viendront pour vous surveiller et vous demanderont comment vont les choses. Vous allez maintenant travailler pour les gens qui travaillent pour vous. Vous serez en fait leur employé. Le moyen de résister à la délégation inverse est de refuser de reprendre la tâche une fois que vous l'avez affectée. Lorsque les membres de votre personnel vous demandent de faire quelque chose, au lieu de demander « que pensez-vous que nous devrions faire ?», vous devriez, quoi qu'ils suggèrent, commenter ou donner votre accord, mais quoi qu'il en soit, vous la leur repassez afin qu'ils puissent se remettre dessus. Résistez à vos tendances naturelles. Il y a une tendance naturelle à vouloir retourner de la gestion vers l'opération. Puisque vous arrivez où vous êtes aujourd'hui en faisant du bon travail et en partant du bas de l'échelle de l'entreprise, à chaque fois que vous vous trouvez sous pression, votre tendance naturelle est de revenir faire ce que vous avez fait avec succès dans le passé. Vous devez lutter contre cette tendance ou vous allez bientôt vous retrouver au bas de la chaîne alimentaire, étant délégué par les différents membres de votre personnel. La définition d'un bon manager est une personne qui fait faire les choses par les autres. Votre travail consiste à veiller à ce que les autres font le travail correctement, plutôt que de revenir en arrière et de le faire vous-même. Remettez sur les autres tout ce qui peut être fait par eux. Une fois que vous avez délégué et attribué une tâche, ne la reprenez surtout pas. Enseignez et formez les autres. Prenez le temps de former et d'enseigner à vos subordonnés et aux autres comment faire leur travail. Lorsque vous vous entraînez suffisamment avec eux, ils gagnent plus de confiance en eux pour que vous puissiez leur déléguer encore plus de tâches. Enseigner aux autres comment faire un travail vous donne un rendement d'énergie élevé. Une fois que vous aurez appris à quelqu'un comment faire une partie de votre travail, vous pouvez toujours la leur déléguer et vous libérer pour d'autres travaux qui vous paient un taux horaire plus élevé. Concentrez-vous sur la clarté. Le problème majeur et le plus grand gaspilleur de temps lorsqu'on travaille avec les autres est la compréhension floue en termes de communication. L'antidote à la compréhension floue est la clarté. La clarté est l'un des meilleurs outils de gestion de temps de tous. Il est atteint que par la répétition, la discussion, les commentaires et l'accord. Prenez le temps d'apprendre à être un bon communicateur. Ce sera payant puisque vous aurez un énorme gain de temps et cela vous permettra d'augmenter votre efficacité dans tous les domaines de votre vie et dans votre travail. Comme l'a dit Winston Churchill, avant que vous puissiez inspirer de l'émotion, vous devez être en submergé vous-même. Avant de déplacer leurs larmes, les vôtres doivent couler. Pour les convaincre, vous devez vous croire.